Bonjour à tous. Voilà, je voulais dire avant tout que je suis heureux que vous soyez là et voilà, ça me fait plaisir. Je connais la plupart d'entre vous, mais je pense que vous me connaissez pour la plupart. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi aussi dans une école chrétienne. On m'a appris à aimer Dieu, on m'a appris à prier. Et le sacrifice de Jésus a toujours été pour moi une réalité. Je l'ai toujours su quelque part. Mais j'ai vite compris que le monde n'avait pas les mêmes certitudes que moi. Surtout lors de mes premières immersions dans le public, entre guillemets, au foot, au collège. J'étais assez timide en fait. Et je voulais pas, je voulais être ordinaire, je voulais pas choquer, je voulais pas de moquerie, je voulais pas être différent en fait. Et je voulais pas qu'on me pose des questions auxquelles je saurais pas répondre. Et ça a été le cas pendant très longtemps. J'avais ces pincements au cœur quand des potes ou des profs, enfin des gens, se moquaient de Dieu ou parlaient mal, mais je disais rien. Donc je me taisais et ma phobie c'était que un jour en classe le prof il se lève, il nous regarde et qu'il dise s'il y a un chrétien qui lève sa main, et là je pense que j'aurais pas su quoi faire du tout. Donc voilà, le regard des autres comptait énormément pour moi et j'ai commencé à séparer mes deux vies, donc la vie à l'église avec mes parents, etc. Et ma vie publique, entre guillemets. Et voilà, donc le regard des autres comptait pour moi dans ces deux endroits, que ce soit à l'église où je voulais être quand même quelqu'un de bien, de présentable, un bon fils, un bon frère, etc. Enfin, un chrétien en devenir. Et dans le monde public où je voulais être un ado cool et normal. Voilà. Quand je suis arrivé au lycée, il y a plusieurs choses qui ont changé. Donc, je suis arrivé à l'internat. J'ai commencé à moins voir ma famille. Je continuais d'aller à l'église le dimanche, mais en fait, ça s'apparentait de plus en plus à une routine. Enfin, on va à l'église le dimanche parce que les parents y vont, mais aussi parce qu'on apprécie les gens, c'est normal. Mais On prie quand il y a des examens. Enfin, ça rassure, ça déstresse. On lit la Bible le 25 décembre. Et franchement, j'exagère à peine. Mais voilà, je suis rentré dans cette routine et les choses ont perdu leur signification, leur sens pour moi au fur et à mesure. Voilà, j'avais plus vraiment envie, enfin je me posais même plus la question de progresser avec Dieu. Je faisais du surplace et j'ai commencé à me complaire dans cette position. Ouais, c'est le regard des autres, encore une fois, qui conditionnait et qui limitait ma relation avec Dieu. J'étais dans l'entre-deux, le compromis un peu confortable. Au lycée, on grandit. Enfin, il y a plein de tentations qui naissent. Je plaisais un peu avec les filles et tout. Il y avait rien de sérieux. Jusqu'en terminale, j'ai rencontré une fille dont je suis tombé amoureux. Elle s'appelait Marie. J'ai mis aucune base. Il y avait aucune frontière dans notre relation. Enfin. Voilà, par rapport, je vais le dire, par rapport au sexe notamment. Et voilà, j'avais envie d'être comme tout le monde. Je pensais que je me sentirais mieux après, que c'était peut-être la femme de ma vie. Et donc, au final, pourquoi attendre, quoi? Et c'est à ce moment-là que la séparation entre ces deux vies était vraiment à son paroxysme, quoi. Parce que d'un côté, je voyais Mathieu progresser dans sa vie spirituelle, et j'avais envie de faire comme lui, j'avais envie de rentrer dans les chemins que Dieu avait prévus pour moi, mais je voulais pas renoncer à ma vie qui était ma vie de couple qui commençait à devenir qui me plaisait bien, qui était agréable. Donc voilà. Ensuite, il y a eu les vacances d'été, plusieurs moments forts avec Dieu, Face Camp, il y a eu le message de Nick au Havre à Bouge ta France, un mec qui a pas de bras, pas de jambes, et j'en avais entendu parler plein de fois, mais là il était face au stade et il nous parlait, il nous demandait juste de suivre Dieu avec simplicité, avec un grand sourire, et je me souviens que ce jour-là, je me suis dit, ouais, je vais suivre Jésus et je vais arrêter tout ça. J'ai eu envie de changer radicalement ce jour-là. Puis comme plein d'autres fois, enfin plein de fois où on lève la main à l'appel, on fait ceci, on fait cela, et puis ensuite on revoit les gens, et puis tout ça s'est balayé en quelques jours. Ensuite, il y a eu la prépa. Enfin, c'est un mot qui fait un petit peu peur, mais ça donne envie de se dépasser. Et du coup, j'ai encore changé de vie, mais cette fois, je suis complètement parti de la maison, de tout ce que je connaissais, le cadre que je connaissais, le cadre familial, tous mes amis. Enfin, je suis parti de tout ça, vivre chez ma grand-mère, vers Paris, du coup. Je me suis retrouvé vraiment seul face à moi-même, où c'est moi qui devais prendre les décisions pour les moindres petites choses. J'ai entretenu mes mauvaises habitudes et j'ai arrêté les bonnes au fur et à mesure. J'allais plus à l'église. Enfin, peut-être que ça peut sembler léger comme ça, mais pour quelqu'un qui est en formation comme moi, en fait, ça m'a isolé et ça me commençait à me détruire à petit feu. J'ai découvert un sentiment que je connaissais pas, donc la solitude. J'avais jamais vécu ça. Vraiment, c'était. Enfin, je savais pas ce que c'était. Enfin, et puis là, enfin, je rencontrais des gens. Il y avait mamie à la maison quand même, mais c'était pas pareil. Enfin, je me sentais seul le soir dans ma chambre. Voilà, j'étais dans un profond mal-être. Je continuais de venir de temps en temps parce que ça me faisait au final beaucoup de bien de voir des visages que je connaissais, des repères. Donc mes parents ou les gens ici à l'église. Je continuais aussi de voir Marie. Et ce que j'ai pas dit, c'est que déjà, je suis pas d'un naturel à me confier beaucoup sur mes sentiments, enfin sur ce que je ressens. Et là, je savais que ma relation, quelque part, n'était pas pure, donc je me suis enfermé dans tout un tas de mensonges, ouais, dans beaucoup de mensonges. Et voilà. Et le pire, c'est que quand j'y étais, enfin, ça me semblait au final pas si grave. Enfin. Et un jour, je crois que ça devait être en février. Ouais, je suis vraiment nul avec le temps. Enfin, je pourrais jamais dire. Ouais, c'était ce jour-là, le 28 février 99. Non, donc voilà, un jour en février où je rentrais d'Aubergenville, j'étais dans le train et tout ce que j'avais enfoui en moi depuis tous ces mois, peut-être même toutes ces années. Enfin, je l'ai relâché. Je pleure pas souvent, mais là j'ai pleuré pendant 1 heure de train, 15 minutes de métro et 20 minutes de tram. Et voilà, je pleurais. Le pire, c'est que c'était pas vraiment des larmes de tristesse, mais je pleurais juste. Ça me ça me faisait du bien et je ressentais de, c'était agréable, je ressentais de la douceur et de la puissance. C'était un moment où j'étais ultra, ultra faible en plus à la base. Enfin, comme d'habitude, j'avais 5 trucs à rendre que j'avais pas commencé pour dans 2 jours. J'étais fatigué, j'allais reprendre la semaine. Enfin, le dimanche soir, franchement, pour ceux qui sont en prépa, c'est ultra badant, quoi. Et donc j'étais dans cet état-là. Mais après être sorti de ce train, enfin à la fin du trajet, j'arrêtais de pleurer et je me sentais tellement bien, je me sentais tellement guéri. Enfin, vraiment, j'ai été touché par Dieu à un moment où, au moment où j'étais le plus vulnérable, où j'étais le plus mal. Et vraiment, ça m'est tombé dessus à un moment où je le demandais même pas en plus. Et donc voilà, à la fin de ce trajet, je savais que tout serait différent maintenant, que j'avais eu une sorte de déclic. J'avais beau vouloir prendre des décisions dans ma tête et tout, mais là, le fait d'avoir ça, c'était logique. Donc, j'ai appelé ma copine, on a parlé, et pour la première fois, j'avais été sincère avec elle. Mais pour la première fois, je cachais vraiment rien. Je lui expliquais tout. Je lui ai tout expliqué d'un coup. Je lui ai expliqué pourquoi on avait mal commencé notre relation et ce qui allait pas. Et finalement, quelques jours après, on s'est séparés parce que j'associais finalement cette relation à trop de choses mauvaises, en fait. Et Dieu m'a vraiment accompagné dans cette démarche. C'est-à-dire que ça aurait pu être, je sais pas, difficile ou pénible, mais au final, ça s'est super bien passé. Voilà, j'ai recommencé à prier, j'ai recommencé à me confier aussi, et ça faisait du bien. Enfin, c'était comme la fin d'une apnée. Je me souviens que le soir même, enfin, quand ça s'est terminé, j'ai appelé plein de gens. Je crois que j'ai appelé Florent, j'ai appelé Mathieu. Enfin, ça m'a fait trop du bien. J'avais envie de le raconter à tout le monde. Donc j'ai recommencé d'aller à l'église, j'ai recommencé à lire la Bible aussi, grâce à cette petite appli, et là on peut lire le bus partout, et ça envoie des versets tous les jours en fait. Et moi c'est vraiment incroyable, parce que les versets que ça m'envoie, ben, ils sont vraiment très très souvent, ben vraiment, voilà, ils tombent juste, enfin, vraiment c'est vraiment génial ces petits trucs. Donc, grâce à Dieu, l'année s'est bien terminée. Je sais qu'en apparence, là, ça fait un changement assez net. Enfin, mais au final, en fait, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a toujours des moments où on a envie de bien faire. Au final, on fait 10 pas en arrière après. C'est jamais simple, en fait. Mais je sais que là, je l'ai toujours su, mais là, de le ressentir, voilà, c'est ça qui a fait toute la différence. Donc, grâce à Dieu, l'année s'est bien terminée. Je choisis aujourd'hui de continuer l'aventure avec Dieu, en appréhendant ma vie non selon mes principes, parce que au fond, sans Dieu, on fait les trucs, on sait pas trop pourquoi on les fait. Enfin, c'est un peu du vent. Enfin, non, faut pas faire ça, faut pas voler, faut pas faire ce truc, mais pourquoi en fait? Je sais et je vois maintenant dans mon cœur que je comprends que Dieu est mort pour moi et pour mes péchés. Il me l'a montré au meilleur moment possible, en fait. Enfin, au pire pour moi, mais au meilleur moment. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai choisi de dire aujourd'hui. Je voudrais remercier des gens, enfin, après Dieu à qui je dois tout, je voudrais remercier des personnes qui ont été des exemples et qui m'ont inspiré. Je voudrais remercier Mes parents, ma mère qui est dévouée, enfin, franchement, enfin, t'es indécourageable et c'est. Et voilà, enfin, merci pour ça et mon père aussi, enfin, je me rends compte à chaque fois que je vois ses collègues que c'est vraiment un témoignage et il montre que en fait c'est possible d'être un chrétien dans le monde. Et je sais que j'avais rencontré une fille qui travaille avec lui, enfin elle travaille pas vraiment avec toi, mais elle s'appelle Dali. Et elle m'a dit, quand je lui ai dit que j'étais son fils, que elle m'a dit juste un truc alors qu'elle n'est pas du tout chrétienne. Elle m'a dit, ton père il a tout compris. Voilà. Je voudrais remercier aussi. Je voudrais te remercier, JB. Voilà, toi, t'es assez incroyable. T'as toujours la pêche, ta banane et tout. On pourrait croire que c'est facile quand tout va bien, etc. Mais moi, je sais que c'est super dur. Et toi, je me souviens une fois, t'as prié, je crois que c'était à Noël. Et t'as dit des trucs, en fait, tu m'as qualifié par des adjectifs qui, pour moi, me faisaient cruellement défaut, en fait. Et j'ai vraiment ressenti que. J'ai vraiment ressenti la douceur de Dieu, enfin, dans le sens où il ne me condamnait pas du tout. Mais que voilà, il savait ce que je pouvais devenir, etc. Je voudrais te remercier, Mathieu, enfin, parce que t'as toujours été au final, même si on se ressemblait, t'as toujours été un exemple de force et de motivation et de foi aussi depuis qu'on est tout petit et auquel j'ai pu m'identifier. Donc, merci, voilà. Ok. Je voudrais finir par un verset que j'ai reçu, ben, justement grâce à cette appli, il n'y a pas longtemps, peut-être quelques semaines. C'est Proverbe 3, versets 5 à 6. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Voilà. Je sais que la route est longue, mais je sais aussi que Dieu sera avec moi.
Alors, qu'est-ce que représente le baptême qu'on va prendre là derrière nous quand tu vas y aller? On va tous assister à ça. Tu le rappelles en quelques secondes.
Ben, c'est le symbole, enfin, c'est la manifestation d'une nouvelle vie qui commence. Enfin, choisir de vivre en mettant Dieu dans tous les compartiments de ma vie et sans que ce soit moi au final le leader, quoi.
Amen. Vous pouvez vous avancer, surtout les enfants, hein, qui peuvent voir de plus près le baptême. Attendez juste une seconde. La symbolique, c'est quand il va être sur la confession de sa foi, je vais le baptiser, le plonger dans l'eau. Quand il va ressortir, donc c'est la résurrection, il va adopter cette vie nouvelle dont il vient de parler. On va prier pour lui, donc Michel et moi, et aussi les parents, pour qu'il puisse être rempli, revêtu de l'esprit. Hein. L'esprit, on peut le recevoir avant le baptême aussi, hein, au moment de la conversion. Mais on veut qu'il soit rempli de l'esprit. Il peut recevoir une double portion, une triple portion de l'esprit. Donc on prie pour cela au moment de sortir, c'est un peu le sens. Et la louange va prendre un chant que je vous invite à entonner avec eux. C'est un chant que tu as choisi, hein, c'est ça? Tu l'aimes bien ce chant-là?
Ouais, enfin, j'aime bien plein de chants, mais c'est « Mon secours est en toi » de Impact.
Amen. Donc on va le chanter avec lui. Et vous savez, dans ces moments, il y a quelque chose qui se passe entre le ciel et la terre. Il y a le ciel qui s'ouvre. Et les anges nous ait dit, se réjouissent avec nous. Et c'est peut-être pas qu'un seul ange, c'est beaucoup d'anges qui se réjouissent. Et là, tu vas vivre quelque chose qui va marquer ta vie et qui va mettre un pieu dans lequel tu pourras t'appuyer. Et là, tu pourras dire, le 1er juillet, tu t'es fait baptiser 2018. Amen. Amen, voilà. Amen. On va procéder au baptême. Je vous invite à vous approcher. Et le Seigneur va agréer les paroles maintenant qu'il va prononcer de ce oui, hein, un peu comme dans un mariage. Il va s'associer à Jésus, s'associer à Dieu dans cet acte d'obéissance qu'il va maintenant faire devant nous. Bien cher Samuel, tu es là aujourd'hui en ce jour où on va te baptiser. Est-ce que tu crois en Dieu le Père, Créateur Tout-Puissant, qui est à l'origine de ta création aussi?
Oui.
Est-ce que tu crois en Jésus, son Fils, bien-aimé, qu'il a donné pour toi, pour tes péchés, pour qu'il soit pardonné et que tu sois juste devant lui?
Oui.
Est-ce que tu crois au Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui te donne la vie? Et quand tu seras mort avec Christ, eh bien, le Saint-Esprit te donne la vie chaque jour et il te donne la capacité de vivre ta vie chrétienne. Est-ce que tu crois au Saint-Esprit?
Oui.
Est-ce que tu veux prendre l'engagement aussi de résister à l'ennemi? Parce que si tu résistes à l'ennemi, tu te soumets à Dieu, il fuira loin de toi et tu seras libéré dans ta vie chrétienne.
Oui.
Voilà, et bien sûr, la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
La lune me glace et le soleil me glace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, je lève les yeux. Vers les hauts sommets. refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est
ta victoire,
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers
En même temps, je voudrais m'adresser aux monitrices d'école du dimanche, aux moniteurs et aussi aux parents. Quand Jean-Samuel est arrivé à l'école du dimanche, il avait quoi ? 8 ans, 9 ans ? Hein, à peu près. Et pour les moniteurs et les monitrices, ce genre d'aboutissement, c'est le rêve. Et c'est ça qu'il faut regarder quand on travaille avec les enfants. Un jour, nos enfants, qui sont parfois pénibles, parfois difficiles, c'était pas le cas de Jean-Samuel, mais ça arrive parfois, un jour, ils vont s'engager avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on travaille. Alors ne vous découragez pas. Si quelquefois il y a des moments difficiles avec les enfants à l'école du dimanche ou avec vos propres enfants, gardez toujours en vue le jour où ils seront là à confesser le Seigneur. Et je pense aussi aux enseignants de l'école chrétienne qui auront ce bonheur de voir plusieurs enfants, hein, plusieurs promotions d'enfants qui vont s'engager avec le Seigneur. Donc pensez-y, tous ceux qui travaillent avec les petits et les parents, ne vous découragez pas, parce que c'est ça qui nous attend pour chaque enfant qui nous fait du souci. Et je dois dire